Cette semaine, en Libye, les forces de Kadhafi continuaient de résister dans quelques bastions et de son côté, le Conseil national de transition était reconnu par plus d'une soixantaine de pays. Le CNT cherche désormais à asseoir son pouvoir, notamment à travers la création d'une armée nationale. Mais selon nombre d'analyses, la transition ne pourra vraiment commencer que lorsque Kadhafi sera capturé. Une partie de sa famille est déjà réfugiée en Algérie. Pour Kader Abderrahim, chercheur sur le Maghreb à l'IRIS à Paris, l'Algérie a des intérêts certains à accueillir la famille du dirigeant libyen.
Il y a une dimension à la fois humanitaire et politique. Ça, c'est le premier aspect des choses. Et puis les États n'ont que des intérêts, hein, ils n'ont pas d'amis. Donc je n'exclus pas non plus l'hypothèse que pour l'Algérie, la famille Kadhafi devienne l'objet d'un marchandage avec le Conseil national de transition libyenne. Et sans doute les Algériens vont demander au CNT de leur envoyer une demande d'extradition en bonne et due forme. Et puis c'est là que le marchandage va commencer. Je pense que les Algériens sont conscients d'avoir une carte dans les mains et qu'ils vont la jouer et qu'ils vont l'utiliser aussi longtemps que ce sera possible.
Qu'il s'agisse de Libyens, de Tunisiens ou de Soudanais, le printemps arabe a entraîné un afflux massif d'immigrés sur les côtes européennes. Les affrontements et révolutions qui ont secoué le Maghreb et le Moyen-Orient ont en effet poussé des dizaines de milliers de personnes sur les routes de l'exil. Face à ces flux migratoires, l'Europe s'est montrée incapable de mettre en place une politique commune pour affronter la situation. C'est ce que dénonce Delphine Perrin, chercheure à l'Institut universitaire européen de Florence.
Dès le mois de décembre, les pays européens ont fait peur de leur crainte d'une invasion de migrants en Europe du fait des révoltes arabes. Chacun des États a beaucoup joué avec ça. Bien sûr, en premier lieu, l'Italie. Donc on a assisté à un spectacle assez pathétique d'absence de solidarité, même d'un éclatement complètement au sein de l'Union européenne, où on a eu du mal à identifier l'existence d'une politique migratoire commune au sein de l'Union européenne, qui est censée exister.
L'Europe n'est toutefois pas sans jouer un rôle majeur dans le printemps arabe. L'UE a en effet décidé d'augmenter la pression sur le régime de Bachar al-Assad. Elle a imposé un embargo sur les importations de pétrole syrien dans l'espoir de dissuader les autorités du pays d'utiliser la force contre les manifestants. Cette semaine encore, des dizaines de personnes sont mortes sous les balles de l'armée. Une répression qui a lieu également dans l'ombre des prisons. C'est ce que dénonçait Amnesty International. Michel Fournier est le responsable Afrique du Nord-Moyen-Orient au sein de l'ONG.
La torture dans les prisons en Syrie n'est pas une chose nouvelle, elle existe depuis longtemps. Simplement, ce qui a changé, c'est le nombre de victimes et le caractère sans doute encore bien plus systématique de ces tortures et leur violence. Il y a eu de nombreux coups, soit infligés directement, soit par des objets contondants, des coups de fouet aussi. On constate des lacérations, des déchirures, des marques de brûlure. Les corps de certaines de ces victimes, c'est quelque chose d'absolument affreux, terrible.
Épisode d'abus et de violence, discrimination sociale et religieuse. La communauté chrétienne au Pakistan souffre toujours, mais une lueur d'espoir est apparue cette semaine. Le tribunal antiterroriste de Rawalpindi a lancé un mandat d'arrêt contre deux Pakistanais soupçonnés du meurtre de Shahbaz Bhatti, l'ancien ministre catholique des minorités religieuses. Dans cette affaire, la police soupçonne le TTP, le mouvement des talibans pakistanais. Pour Roberto Simona, spécialiste de l'islam à aide à l'église en détresse, c'est un signe encourageant pour les minorités, notamment les chrétiens du pays.
Il est difficile de donner une claire lecture de la volonté de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, objectivement, on est confronté à un groupe mafieux formé par des fondamentalistes, certainement aussi formé par des représentants du gouvernement, qui ont l'intérêt d'avoir un climat prétendu, un climat de terreur dans le pays. Maintenant, cette volonté d'arrêter les responsables de certains attentats, c'est quelque chose de positif, donc mieux qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent que de rien faire.
Cette semaine, on célébrait la Journée mondiale contre les essais nucléaires, journée dédiée aux victimes de campagnes d'essais nucléaires depuis 1945. L'arme nucléaire, c'est l'arme de la guerre froide, celle de l'équilibre de la terreur. L'Église catholique a toujours milité pour un désarmement complet à l'échelle planétaire. Pourtant, malgré la fin de l'affrontement Est-Ouest, jamais autant de pays n'ont possédé l'arme atomique, ce qui désole Mgr Stinger, évêque de Troyes et président de Pax Christi France.
L'argument qu'on donne, c'est le terrorisme, enfin, c'est le danger que représentent les groupes incontrôlables, puisque l'armement nucléaire, tout le monde peut l'acquérir aujourd'hui. J'exagère à peine, vous savez qu'au-delà de ceux qui ont accepté de signer les traités, il y en a d'autres qui l'acquièrent, et de façon sauvage. Donc on ne contrôle en fait plus grand-chose, ce qui veut dire qu'au lieu de s'acheminer vers le désarmement, on crée plutôt un contexte où on continue à armer, enfin, où on incite d'autres à le faire. Donc c'est juste le contraire de ce qui était souhaité limitée par le traité de non-prolifération.
L'économie mondiale est dans une phase dangereuse. Cette semaine, les États-Unis ont publié leurs mauvais chiffres en termes d'emploi, les plus mauvais depuis septembre 2010. De son côté, l'Europe tente de trouver des solutions pour juguler le problème de la dette. Cette semaine, les députés espagnols ont approuvé la règle d'or, un texte qui doit permettre l'inscription de la stabilité budgétaire dans la Constitution, une réforme qui suscite cependant une grogne sociale et politique croissante. L'analyse de Fabio Liberti, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à Paris.
Les détracteurs de cette règle d'or affirment en effet qu'un État qui s'impose une telle règle est en quelque sorte en train de se lier les mains derrière les dos, c'est-à-dire d'accepter de réduire sa marge de manœuvre, notamment dans des moments de récession. On enlève en quelque sorte un peu de souveraineté à un État qui accepte une espèce de lien extérieur qui va figer ses comptes publics. Et donc là, on retrouve les débats éternels entre les détracteurs de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne et les gens qui pensent qu'à contrario, enlever effectivement de l'autonomie budgétaire aux États membres est la meilleure garantie d'une force de stabilité de l'Europe.